J'ai intitulé cette conférence « Mon frère différent » parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fraternité que l'on essaie de vivre et de créer au sein de nos communautés, qui nous interpelle en tant que personne dite normale. Et donc c'est un peu de ça dont je vais parler. Donc je suis pas théologien, je suis pas philosophe. Je vais parler de mon expérience, de l'expérience du handicap. Je pourrais rajouter que j'ai aussi une expérience de parent, puisque parmi nos 4 enfants avec Véronique, donc nous avons un fils qui donc a un handicap mental. Alors je vais donc présenter ce temps de parole en 2 parties et une conclusion. Première partie traitera du handicap, du regard que nous pouvons avoir sur le handicap. Donc le handicap, une différence radicale et qui fait peur. Avec d'abord, quel est le regard que nous portons en général sur la personne handicapée et quelle est la perception de cette différence par la personne handicapée elle-même. La deuxième partie s'intitule « Devenir frère, il y a de lui en moi ». Il y a 2 sous-parties, de la solidarité à la fraternité et vivre une relation réciproque. Et enfin, je terminerai, 3e partie ou conclusion, sur quelque chose qui est de l'ordre vraiment de fondamental de l'expérience chrétienne, une expérience pascale. La différence de l'autre oblige toujours à s'adapter, hein, que cette différence soit sociale, culturelle, d'opinion, voire religieuse. On est quand même beaucoup plus confortable avec ce que l'on connaît, ce que l'on maîtrise. Nous sommes toujours interrogés par ceux qui viennent nous confronter à ce que nous sommes, nous interroger sur nos certitudes. Nous avons-t-on alors des réponses qui sont plus ou moins ajustées, soit en fonction de la situation, soit de l'effet que cette différence produit sur nous, en fonction aussi souvent de la menace que nous pouvons ressentir dans cette relation. La rencontre d'une personne, par exemple, d'un statut plus important, si nous nous estimons moins importants qu'elle, peut faire naître en nous de la timidité ou un sentiment d'infériorité. Est-ce que je serai à la hauteur? Comment est-ce qu'il va me juger? Est-ce que je suis assez bien? Chose que l'on peut ressentir très souvent. Mais aussi, d'une certaine manière, la rencontre d'un SDF dans la rue peut apporter chez nous de la gêne, hein, parfois de la peur, si son look nous paraît menaçant et qui fait, par exemple, un peu noir. Je voudrais donc parler du handicap, mais je commence par ça pour dire que, en parlant du handicap, c'est évidemment de toutes les différences ou de toutes les différences marquantes que nous pouvons parler. Il y a néanmoins une spécificité, une singularité du handicap que je voudrais maintenant développer. Et du handicap sans doute mental plus que physique, puisque là est mon expérience. La vue d'une personne en situation du handicap mental génère, elle aussi, hein, de la gêne ou de la peur. On peut aussi avoir de la pitié ou de la compassion, au point qu'on est souvent, en tant que professionnel, amené à essayer de donner des mots aux interrogations que les personnes peuvent apporter ou des interrogations qu'on lit dans les regards. Non, ce n'est pas que du handicap physique, parce que souvent il y a du handicap physique associé. Et non, ce ne sont pas non plus des enfants. Hein, je suis frappé de voir combien les personnes qui nous visitent dans nos communautés vont spontanément dire « Et vous avez combien d'enfants ?» Hein, et ces enfants, qu'est-ce qu'ils font pendant la journée? Et je trouve que c'est intéressant comme expression, parce que je crois qu'il y a là une manière d'éloigner la crainte ou la gêne que l'on peut ressentir auprès de ces personnes qui peuvent avoir effectivement un physique ou une attitude qui peut nous agresser, hein, dès lors qu'on est dans l'inconnu. Et à chaque fois, nous disons, mais non, attendez, ce sont des adultes. Et on a, je crois, comme ça, assez naturellement, en matière de défense, une propension à nommer les choses ou les gens différemment, hein, et à mettre des mots qui, du coup, nous rassurent, mais ne disent pas la réalité. Il ne s'agit pas évidemment, hein, de se culpabiliser et de porter un nul jugement sur ces regards ou ces expressions de crainte ou de gêne. Elles sont naturelles, elles sont humaines. Mais la raison, ce que je voudrais développer, c'est quels sont un peu les raisons. Pourquoi est-ce que nos repères sont si bouleversés avec le handicap? Qu'est-ce qui finalement est en cause dans le fond du fond, en présence de l'autre handicapé, si étranger à moi-même, si étranger à ce que la société nous propose comme modèle et ce que la société reconnaît comme normal et adapté? Vous avez entendu, je crois, ce matin, conférence de Lévinas. Lévinas dit qu'il y a de la défaillance dans l'être. Et cette défaillance visible chez l'autre nous dérange profondément. La première conséquence, c'est sans doute que nous préférons ne pas voir. Ce refus du regard s'applique soit à la personne handicapée elle-même, soit de plus, d'une façon plus masquée, nous nions toute différence. Et dans un même déni, nous assurons d'emblée que cette différence n'existe pas. On est tous frères, hein, on est tous des hommes. Et donc à travers ces expressions, encore une fois, c'est la différence que l'on éloigne. En fait, que nous refusions le regard sur la personne différente ou que nous nions cette différence, le mécanisme est le même. Tout nous rappelle dans cette différence et cette présence m'ébranle au sens propre du terme. Ça m'ébranle dans ma prétendue identité assurée. Quelles en sont les raisons profondes de cette peur ? Comme pour toute personne, que ce soit des personnes aussi atteintes de profonde vieillesse ou de pauvreté, la différence de la personne vécue comme fragile ou dépendante peut me mettre en culpabilité. La dépendance visible nous agresse, il va falloir y répondre et donner de soi, sans savoir jusqu'où cela pourrait nous entraîner. La culpabilité est d'autant plus forte si la dépendance est assortie d'une demande affective. Or, la personne avec un handicap mental est souvent, hein, et c'est une de ses richesses, très dans l'affectif. Et nous le percevons d'emblée. Le mécanisme du rejet de la différence est celui du refus d'entrer dans une relation d'aide qui fait peur, parce qu'elle est coûteuse individuellement. J'avais rajouté, mais c'est vraiment pour y passer rapidement, et collectivement, dans le sens où, à un moment donné, dans notre société de performance, le coût que représente la solidarité auprès des personnes handicapées, mais ça se posera de la même manière avec des personnes atteintes d'Alzheimer ou autres, se pose. Et certains pourraient trouver des réponses. Et donc il y a bien autour de cette question des choses qui gênent aussi collectivement. Mais il y a autre chose. Je pense qu'il y a dans le handicap mental une radicalité de la différence. Je voudrais à ce propos raconter une histoire qui m'est arrivée récemment. J'étais au Kenya, puisque je donnais une formation pour les communautés d'Afrique de l'Est. C'était en avril dernier, donc c'est il n'y a pas longtemps. Et nous avons à Nyahururu, qui est une localité à 3 heures au nord de Nairobi, une communauté de l'Arche qui est née il y a 4 ans, et qui est née d'une association qui s'appelle Saint-Martin. Et c'est intéressant parce que c'est une communauté qui a été créée, une association qui a été créée par un prêtre italien il y a à peu près une vingtaine d'années. Et lorsqu'il présente Saint-Martin, vous savez, on a l'habitude de présenter Saint-Martin de Tours, ce qui était étonnant pour un Italien ou pour des Kenyans. Saint-Martin est sur son cheval et déchire son manteau et donne la moitié de son manteau. Dans les représentations qu'ils font de ce beau geste, Saint-Martin est descendu de cheval. Il est au niveau de celui qui reçoit le manteau. Et j'ai trouvé ça très beau. Mais Saint-Martin est né d'une histoire très étonnante et qui rappelle beaucoup, qui m'a rappelé beaucoup la naissance de l'Arche. Le père Gabriel, donc, qui est le fondateur, qui a maintenant une cinquantaine d'années, qui était très jeune, c'était donc il y a une vingtaine d'années, jeune curé, on lui demande, il est en visite d'un village, et là-bas on demande au prêtre de bénir les maisons, je ne sais pas si ça se fait encore à Castanet, on bénit les maisons, et puis il y a beaucoup de superstitions autour, il y a encore un fond d'animisme important, et donc il va dans un village, et puis il bénit les maisons, les voitures, les poules, enfin bon, on demande à bénir un peu tout, et à la fin de la journée approche, et puis il rentre dans une maison, la maman ou la femme demande est-ce que tu peux me bénir, est-ce que tu peux bénir ma maison, et puis effectivement il parle avec les poules, etc. Puis mais tu dois être fatigué, tu as l'air fatigué, père, est-ce que tu veux du thé? Alors il dit bah oui, je veux bien. Alors bien, écoute, repose-toi. Et puis elle va dans la cour, puisque c'est dans les cours que se font les cuisines, et lui il entend, pendant que la femme va faire du thé, il entend du bruit derrière une porte. Et donc il y va, Il ne devrait pas. Il dit, j'aurais pas dû, parce que quand même, c'est pas poli. Mais j'y suis allé et il découvre dans une chambre fermée un enfant avec un handicap mental. Il est interloqué. La femme rentre avec le plateau de thé et elle aussi. Alors lui, il est gêné, bien sûr. Et il dit, mais qui est-ce ? Et elle dit, c'est mon fils. Et Père Gabriel dit, mais c'est ton fils, comment s'appelle-t-il ? Alors, il s'appelle Thomas. Et comment ça se fait que, alors que tu m'as demandé de bénir ta maison, tes objets, etc., que tu ne m'as pas demandé de bénir ton fils ? Et la femme répond, parce que tu crois qu'il peut être béni ? Et donc, il y a dans cette histoire tout le sentiment de la malédiction, n'est-ce pas, que peut ressentir une maman ou un papa qui accueille un enfant handicapé. Bien sûr, il y a le contexte social qui est très, très important, mais est-il si éloigné d'une autre ? Hein, est-ce que effectivement ce fond d'animisme, de superstition, moi qui connais effectivement bien l'Afrique, enfin on va dire l'arche en Afrique, des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Et nous travaillons d'ailleurs dans une communauté d'Afrique beaucoup à faire changer le regard et pouvoir dire à ses papas et à ses mamans, bien sûr que ton fils il peut être béni. Et non seulement il peut être béni, mais il a beaucoup de richesse et de talent. Et il y a de la et sois fier. Alors c'est pas dit comme ça et c'est pas dit aussi mécaniquement. Hein. Mais c'est tout un chemin qui est important. Et c'est, je crois, tout le chemin que font beaucoup de parents d'enfants handicapés. Mais au départ, quand même, c'est il y a cette question de qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi moi ? À ce propos, je termine sur cette histoire pour dire que, en faisant une enquête, il va voir le père, le curé de la paroisse. Il lui dit, mais tu as combien de personnes handicapées dans ta paroisse ? Écoute, je sais pas, j'en connais 3. C'est une paroisse de quelques centaines d'habitants. Après un temps de découverte, etc., il y avait 25 personnes. Et sur ça, et sur la région, enfin sur l'agglomération qu'il couvre, hein, il y a 1100 personnes avec un handicap, dont beaucoup étaient effectivement cachées. Et donc il y a là tout un travail, hein, qui est de remettre debout, hein, bien sûr, les parents, mais aussi bien sûr les personnes. Alors bien sûr, c'est le Kenya, on peut dire c'est loin de nous, c'est pas nous. Mais d'abord, il faut se dire que c'était chez nous comme ça il n'y a pas très longtemps. Et puis je crois qu'on retrouve toujours la même chose par rapport à ce qui doit être, même si, et les parents le savent, oui, notre enfant avec un handicap peut être une bénédiction, après avoir peut-être vécu cela comme une malédiction, il faut du chemin, hein, pour cela. Mais derrière cette question, il y a la question du pourquoi. Hein, et c'est un peu celle finalement que les gens demandent à Jésus autour de l'aveugle né. Hein, pourquoi ? Hein, est-ce que c'est ses parents qui ont péché ? Est-ce que c'est Dieu qui lui en veut ? En l'occurrence, là, au Kenya, c'était Dieu. Et d'ailleurs, la femme ne cachait pas l'enfant uniquement pour l'enfant. Si j'ai un enfant handicapé, c'est que moi-même, je suis maudit. C'est pas mon enfant qui est maudit, c'est moi. Et je ne veux pas que les voisins sachent, parce que dans ce cas-là, ils vont s'éloigner de moi. Hein ? Et donc, l'existence, la présence d'un enfant handicapé, d'une personne handicapée, est toujours quelque chose qui, je le disais, qui ébranle. Cette question posée par la différence de la personne handicapée est une question essentielle, qui est enfouie au cœur de tout homme et qui surgit incontournable en présence du handicap. La réponse de nos sociétés est parfois, elle, assez radicale aussi. On ne cache pas. Hein, je passerai rapidement là-dessus, mais aujourd'hui, dans notre société, on supprime, hein, avant la naissance, par peur, encore une fois, par ignorance de la valeur que peut représenter la personne avec un handicap, et surtout sa capacité au bonheur et sa capacité à mener une vie qui, au bout du compte, peut être une vie bonne. Et cette question ramène quelque part à c'est quoi une vie bonne, hein ? Sur quels critères jugeons-nous qu'une vie vaut d'être vécue ? Au fond, cette question très profondément enfouie en nous, une question sans doute très archaïque, et qui recouvre notre peur que cela nous arrive à nous, et surtout sans doute définit notre peur de la mort. La question du pourquoi lui, pourquoi moi est très forte. L'homme a besoin de circonscrire le monde par des réponses appropriées quand la menace paraît trop grande. À ce propos, j'ai lu l'autre jour un article aussi intéressant de quelqu'un qui mène une carrière tout à fait brillante dans la préfectorale et qui s'interrogeait sur justement cette question du pourquoi. Et qui disait que pendant des années, sa vie avait été plombée par cette question du... Alors, c'était un handicap physique, mais pourquoi moi, pourquoi? Et donc, il racontait que depuis qu'il avait réussi à dépasser cette question, il s'était senti libéré. Et il avait cette belle phrase que je vous livre, qui était « Les pourquoi épuisent, les comment construisent ». Avec la personne handicapée, la menace est perçue comme très grande parce qu'elle porte sur son visage, souvent, sa défiance visible. On voit en elle tous les renoncements à des capacités qui nous semblent essentielles. Privation de la marche, de la vue éventuellement, de la parole quelquefois. Privation de la relation, qui n'est pas forcément liée à elle, qui peut être liée à sa pathologie, mais qui est souvent liée à cette gêne dont je parlais. Voire même privation de l'intelligence. Quelque part, nous portons tous, je crois, chacun des deuils, deuils de choses dont on rêvait, ou vrais deuils. La personne handicapée, quelque part, porte ses deuils ou son deuil sur elle-même. Et c'est sans doute ça qui fait que quelque chose est difficile. Ça se voit visiblement. Personne, sauf si cette personne est déjà connue, la personne handicapée porte sur elle la trace d'un deuil de vie. Toutes ces privations visibles sont des marques visibles des deuils que la personne a fait. En d'autres termes, ces personnes avec un handicap nous rappellent brutalement notre finitude. La personne handicapée, pour certains, porte le symbole de notre mort certaine, je l'ai dit. Et bien sûr, cela nous fait peur. Une autre différence, c'est que cette personne est disqualifiée d'emblée pour les valeurs reconnues comme capitales par notre société. Je parlais de la performance, de cette recherche de compétences à tout prix, parfois de la beauté. On sait très bien que si quelqu'un est, si on regarde uniquement l'aspect physique, ou quelqu'un va être jugé trop gros ou obèse, on va porter un jugement souvent sur cette personne en disant elle s'est laissée aller. Sans savoir quelle est l'histoire de cette personne. On est très sensible dans notre société à ce genre de choses. Nous, quand je dis cette société, c'est nous, valorisons aussi l'utilité, l'autonomie. Et de ce fait, on exclut et dévalorise ceux qui ne rentrent pas dans ces canons proposés. Bon, il y a plein de gens qui ont parlé de ça, donc je vais aller rapidement là-dessus. Mais notre modèle actuel, c'est l'individu autonome, maître de sa destinée, autosuffisant au point de chercher à être totalement indépendant des autres. Et ne pas répondre aux injonctions de cette normalité génère des phénomènes dépressifs majeurs. Une surenchère de l'angoisse, dit Michela Marzano, qui est une philosophe italienne qui a beaucoup travaillé sur les phénomènes d'angoisse, et sur cette question de l'autonomie individuelle proposée par la société. Elle est aussi une blessure majeure pour les personnes handicapées, parce qu'ils ne... finalement, ils sont tout de suite en situation d'infériorité, puisqu'ils ne peuvent pas répondre à ces critères. Ils sont des différents hors normes dès le départ. À cet égard, les personnes nées handicapées, notamment mentales, ne sont jamais entrées et ne pourront jamais entrer dans la course proposée. Cette course qui doit nous amener à montrer que nous maîtrisons les choses, que nous sommes à la hauteur. Ces valeurs de performance, d'indépendance, de succès, d'argent, place les personnes handicapées, mais on sait qu'il n'y a pas qu'elles qui sont dans ce cas, dans une situation d'infériorité. La course est biaisée dès le départ. Et dans cette disqualification initiale des critères de valeur sociale, il y en a une qui est d'autant plus vive qu'elle est rarement remise en cause, c'est celle de l'intelligence. La plupart des gens savent que, bon, juger à travers le physique, c'est pas terrible, ça. Et je crois qu'on arrive à peu près à échapper. Est-ce qu'on échappe aussi facilement à celui de juger la personne de par son intelligence? Et là, il y a quelque chose là qui mériterait d'être creusé. Parce qu'être intelligent, c'est fait partie des dons de la nature les plus prisés. Et quand on en semble privé, à quel type de radicale différence se heurte-t-on? Et dans ces conditions, hein, quelle vie vaut d'être vécue? Je voudrais maintenant parler de la perception de la différence par la personne handicapée. Là encore, pardon de faire appel à des lieux communs qui sont souvent entendus au sujet des personnes handicapées. Souvent, on nous demande, mais est-ce qu'ils se rendent compte de leur différence? La question est de savoir si elle perçoit le regard différent que nous posons sur elle. Et la réponse est évidemment oui. Oui pour tout le monde. Personne avec un handicap, on sait très bien, les personnes, voyons comme nous sommes en situation de fragile, etc., nous développons une beaucoup plus grande sensibilité à la relation à l'autre. Imaginons des personnes qui, elles, toute leur vie, hein, depuis le début, ont pu être vécues comme une déception, et puis surtout ont toujours subi hein, ce regard de différence. Et donc interrogeons-nous alors sur la capacité que la personne handicapée peut avoir de relation et de la finesse qu'elle peut avoir de cette relation. En tout cas, les personnes nous pouvons l'interroger assez naturellement. Nous avons à l'Arche en France fait un film qui s'appelle L'épreuve des mots, qui donne la parole à des personnes handicapées. Un film qui ne dure pas très longtemps, 26 minutes. Et qui traite de sujets de société comme l'amour, la mort, l'argent, le travail. Et d'une part, on peut voir qu'elles ne disent pas que des choses idiotes, loin de là. Et il y en a une, Alain, dans le film, à qui on dit, mais finalement, ça te fait quoi, toi, ce mot de handicap? Et il dit, ben, c'est pas facile, mais c'est peut-être une richesse. C'est dur, hein, mais c'est peut-être une richesse. Parce que bah, peut-être qu'on voit des choses que les autres ne voient pas. Et c'est une parole assez lumineuse, parce que, de fait, nous ne savons pas ce que l'autre peut voir, mais je crois que là aussi, il faut être dans l'espérance et la confiance qu'il y a beaucoup de choses qui se voient. Et à ce propos, plutôt que de parler de personnes avec un handicap, de personnes accueillies ou autres, la sémantique est toujours maladroite hein, pour nommer. Pour bien nommer, on aime bien parler de personnes qui ont l'expérience du handicap. Parce que c'est une vraie expérience qui est très mystérieuse pour ceux qui ne la vivent pas, dont on n'a pas fait tout le tour, dont on ne connaît pas toutes les richesses. Mais oui, il y a sûrement des choses que je vois, que je sens, que les choses que les personnes ne sentent pas et ne voient pas. Pourquoi la personne perçoit sa différence ? Parce que, comme je le disais, la vie lui a développé des antennes spéciales. Jean Vanier parle souvent de l'humiliation fondamentale de se sentir inutile, rejeté, différent. Cette humiliation est la crainte première de tout homme, dit-il. C'est la nôtre. Et nous passons notre vie souvent à nous en protéger. Nous développons des mécanismes de défense, des stratégies plus ou moins subtiles, pour montrer un autre visage que celui que l'on croit donner aux autres et que nous ne trouvons pas aimable. Je pense à une femme que nous avons accueillie chez nous qui vient du milieu ordinaire, qui ne porte pas le handicap sur elle. Hein. Et qui, lorsqu'on l'a admise dans la première relation, a raconté une histoire qui traduit tout à fait ça. Elle dit finalement, toute ma vie, j'ai dû montrer un autre visage que celui que j'ai vraiment. J'ai toujours dû montrer que j'étais mieux que ce que je croyais être, mieux que, etc. Et elle disait, arrivée à 26 ans, ben, je suis épuisée, j'en peux plus. Mes parents aussi m'ont hein, essayent quand même de montrer que c'est pas si grave, que c'est pas si, etc. Avec amour, bien sûr. Enfin, bien sûr, pas toujours, mais en l'occurrence, oui. Et elle disait, alors je lui dis, mais pourquoi tu viens taper à la porte? C'était sa démarche à elle de venir chez nous. Elle dit, mais parce que l'autre jour, j'ai passé un week-end avec des personnes handicapées, donc moi je ne le suis pas. Et qu'est-ce que c'était bien? Je me sentais apaisé, je n'avais pas à démontrer quoi que ce soit, je n'avais pas à démontrer que j'étais mieux qu'eux, hein, ou que je n'avais pas, peut-être que parce qu'ils étaient peut-être un peu plus handicapés qu'elle, elle se sentait du coup un peu plus en plus forte estime d'elle-même, mais elle traduisait à la fois l'expérience que moi je vis, mais que beaucoup de gens qui vivent à l'Arche, et, ou en tout cas avec des personnes avec un handicap peuvent vivre, c'est le fait que cette relation, quelque part, simple, hors compétition, j'aurais envie de dire, est apaisante. Et me permet du coup, relâchant mes protections, me simplifiant, m'aide à devenir davantage moi-même. Dans la Genèse, Adam, Dieu cherche Adam, où es-tu ? Et Adam lui dit, j'étais nu, j'ai eu honte et je me suis caché. Dieu le cherche parce que Dieu nous cherche. Il ne nous trouve pas toujours, mais il ne cesse de nous chercher. Et Adam, le premier homme, se cache pour que Dieu ne découvre pas qui il est vraiment, qui il pense qu'il est vraiment, c'est-à-dire un homme pauvre et capable de faillir. Nous n'avons pas décidé d'être ce que nous sommes, et souvent nous aimerions être autres. Alors nous nous protégeons, nous construisons un personnage, bref, nous jouons à cache-cache avec nous-mêmes et avec les autres. Heureusement, pas toujours. Les personnes avec un handicap aussi aimeraient parfois ou souvent bien se cacher. Mais les circonstances de leur vie font qu'elles y arrivent moins bien que nous, tout simplement parce que pour beaucoup, elles ne savent pas le faire et ne le peuvent pas. Mais cette incapacité fait aussi leur singularité et sans doute une de leurs richesses. C'est en tout cas ce que nous pouvons expérimenter avec elles, ce que je viens d'expliquer sur cette femme qui venait pour une première fois en contact avec des personnes handicapées, elle-même porteuse d'un handicap, mais ne l'acceptant pas vraiment. Leur simplicité, leur côté direct nous montre un chemin. Nous pouvons en être ébranlés, oui, mais elle nous appelle à nous mettre en branle, c'est-à-dire à nous mettre en mouvement. Et je crois que beaucoup de parents, c'est une des choses que j'aime beaucoup dans mon métier actuel, c'est cette relation avec les familles. Beaucoup de parents témoignent tous de cet ébranlement, parfois effondrement, mais qui peut être, et Dieu merci, un effondrement particulier ou et réduit dans le temps, mais que cet ébranlement met en mouvement. Et il y a un mouvement là qui fait qu'on est transformé, on n'est pas pareil, mais on peut découvrir aussi effectivement toute la richesse qu'il peut y avoir dans l'enfant reçu. Deuxième partie, devenir frère. Il y a de lui en moi. Comment passer de l'autre différent à tuer mon frère ? Et la question n'est évidemment pas simple avec des personnes avec lesquelles on peut se sentir finalement peu de choses en commun. De l'autre différent que j'évite, qui me gêne, que je tolère, que je peux avoir envie d'aider, et puis que, en progressant, je peux accueillir, aimer, comme un frère, que je sais consoler, mais qui saura aussi, lui aussi, me consoler. Notre société dépense beaucoup d'argent pour, selon le terme, prendre en charge les personnes handicapées. Sans doute pas assez, mais on est quand même à cet égard dans un pays qui est encore très riche et a fait beaucoup de choses depuis de nombreuses années. La solidarité nationale s'exerce par le biais de nos impôts, mais aussi par le biais de très nombreuses associations qui militent et accompagnent les personnes en situation de fragilité de toutes sortes. Mais je voudrais m'arrêter sur le terme de prise en charge. Quand on dit qu'on prend quelqu'un en charge, hein, c'est que quelque part, on trouve que cette personne est un poids. Hein, ça encombre. Et si on regarde, par exemple, dans le dictionnaire, la définition du mot inutile, hein, de poids, hein, donc, c'est quelque chose qui encombre, qui ne sert à rien. Donc là aussi, travaillons sur la manière dont on nomme les choses. Il y avait un parent qui disait « Oui, arrêtons de parler de prise en charge, on n'est pas une filiale de la CERNAM. Hein, nos enfants ne sont pas des colis. » Mais on voit finalement assez peu, on parlera finalement assez peu de personnes avec un handicap comme d'une richesse ou d'une ressource. Elles sont tolérées ou mieux encore sujet, hein, et c'est mieux, bien sûr, sujet de notre solidarité, mais jusqu'à quel point entrons-nous dans la relation? Et c'est ce que je voudrais là développer plus rapidement, peut-être que je voulais le faire, sur, quand on parle de solidarité, quelle est la différence qui n'est pas qu'une nuance entre solidarité et fraternité? Et la nuance, elle est évidemment, vous l'aurez compris, dans la rencontre et dans la relation. Laissez-moi faire une petite digression sur le mot de fraternité. J'ai entendu récemment, j'ai eu beaucoup de chance avant cette conférence, j'ai eu l'occasion d'écouter ou de lire des choses qui m'ont intéressé. Une conférence de Dominique Balmary, qui est le président de l'UNIOPS, qui est une fédération qui regroupe la plus grosse fédération nationale, qui regroupe les associations du social et du médico-social. Par ailleurs, Dominique était vice-président de l'Archon France pendant des années. Et il nous faisait une conférence sur les trois termes républicains, de liberté, égalité et fraternité. Et il nous disait que des trois termes, celui de la fraternité, venu d'ailleurs beaucoup plus tard dans le triptyque, puisqu'il ne date que de 1848, ne mobilisait pas autant que les autres. Que quelque part, notre société évoluait beaucoup autour des deux termes de liberté et d'égalité, et que d'une certaine manière, l'équilibre social au cours de toutes ces années s'était beaucoup fait autour de ces deux termes. Et beaucoup de gens ont été dans la rue pour manifester, pour plus d'égalité, et c'est bien, et c'est là que se sont gagnés des droits essentiels, ou pour davantage de liberté, on manifeste assez peu pour la fraternité. Mais le terme de fraternité est donc un terme qui pose question. Et il nous renvoyait par exemple à l'article 1er de la Déclaration des droits universels des droits de l'homme de 1948, où il est dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. » Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité et non pas comme des frères. On parle d'esprit de fraternité, pas directement de fraternité. Et pourquoi? Et l'hypothèse qu'il faisait, c'était que peut-être que derrière le mot de fraternité, il y avait un pas que beaucoup n'acceptaient pas de franchir, qui est que se dire frère, c'est se dire qu'on a des origines communes. Et que là, c'est peut-être aller trop loin encore. Hein, que dans frère, il y a je te reconnais. C'est le fameux il y a de lui en moi. Ou, comme disait Julia Kristeva dans une conférence que j'ai entendue il y a quelques années, quand elle parlait du handicap et de la radicalité de cette expérience du handicap, de cette différence du handicap, hein, elle employait même le terme il y a de ça en moi. Lorsque je franchis cette barrière de il y a du lui en moi, est-ce que cela ne va pas bouleverser mes représentations et bouleverser mon rapport à l'autre? Comment alors ne pas me sentir concerné par son avenir? Puis-je rester indifférent au sort des personnes qui m'entourent ou de la personne handicapée que je rencontre et dont je me dis, si je vais au bout du raisonnement, que nous avons une humanité commune? La fraternité est alors davantage renvoyée. Aujourd'hui, pardon, la fraternité est aujourd'hui davantage renvoyée à la sphère privée. Elle n'est plus très présente. On n'en parle pas beaucoup dans les politiques publiques. Elle a assez peu de place dans ce débat public. Elle est souvent ramenée individuellement et collectivement à une dimension élective et sélective. Et on peut se réjouir que l'Église de France ait organisé ce grand rassemblement de Diaconia 2013 autour de la fraternité qui a montré qu'il y avait une véritable aspiration dont il faut que l'on sache tous ensemble faire quelque chose. Le terme de solidarité, qui remplace aujourd'hui beaucoup dans notre vocabulaire, ou qui prend beaucoup de place aujourd'hui dans notre vocabulaire, qui est un très beau mot, me semble néanmoins moins engageant. Si la vraie solidarité implique un engagement pour la cause et pour ceux dont on est solidaire, elle n'implique pas nécessairement un engagement aux côtés d'eux ou une prise de risque liée à la relation créée. Le risque est grand alors de rester au seuil de la rencontre avec l'autre, et de n'en rester qu'à une forme de charité qui ne laisse pas vraiment la place à l'autre. Vous connaissez tous cette phrase que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. J'essaie de me rappeler souvent, parce que c'est tellement facile, dans la relation à l'autre fragile, à l'autre démuni, d'être dans une position de domination qui finalement nous fait du bien, nous conforte, mais qui ne met pas l'autre à la place qui devrait être la sienne. J'aime beaucoup cette phrase aussi qui me revient souvent en tête de Jean-Paul II, qui dit que le plus beau des cadeaux, c'est de vivre en relation. Et notre expérience à l'Arche parle beaucoup de relations, mais il rajoute « et en responsabilité ». C'est-à-dire qu'on peut être en relation avec des enfants, des adultes handicapés que l'on va trouver très sympathiques, des enfants. Et il va y avoir une relation qui va être très agréable, très sympa, mais est-ce qu'on est vraiment dans une vraie relation qui leur donne toute leur place, il leur permet de vivre leur statut d'adulte, de développer leur responsabilité d'adulte, leur capacité et tous les talents qu'ils peuvent avoir. Donc à l'échelon d'un État, on sait très bien que la solidarité peut devenir une technique, quelque chose que l'on délègue. C'est pratique d'avoir un État-providence, c'est eux qui s'en occupent. N'est-ce pas la dérive que notre État-providence a connue? Mais je veux dire que je trouve qu'il y a beaucoup de fourmillement aujourd'hui dans notre société pour que nous, citoyens, les associations, prennent en charge davantage les choses. Pas les gens, les choses. Avec un besoin d'engagement concret à plusieurs, sur le terrain. Et des engagements où les personnes se rencontrent vraiment. Donc je ne peux pas être frère et ne pas être proche. Je ne peux pas être frère si je ne suis pas en relation avec l'autre. La fraternité est donc davantage et aussi d'un autre ordre que la solidarité. La fraternité implique une interdépendance, le « j'ai besoin de toi » et « j'ai besoin de toi » dans une relation réciproque. On se connaît et on se reconnaît. La fraternité implique une relation inconditionnelle quand elle va au bout de cette relation. « Je t'aime comme tu es » et malgré ce que tu fais. N'est-ce pas le regard que Jésus nous porte et a porté sur ses disciples, y compris au premier d'entre eux, ce Pierre qui nous touche tant, et qui malgré ses trahisons, malgré ses maladresses, a toujours été aimé. La fraternité, on peut le dire aussi, est de l'ordre de l'alliance. Bien loin de ces relations ou de ces échanges calculés, tels que le décrit un jésuite qui s'appelle Étienne Grieux et qui dit que finalement notre société est aujourd'hui polluée par la prééminence des échanges calculés, c'est-à-dire des échanges dont on attend toujours quelque chose. Et de ces échanges qui finalement ne donnent pas de place à la gratuité. Comment rentrer en relation réelle avec des personnes qui, en tout cas, dont on ne peut pas attendre reconnaissance ou de relations de retour telles que nous les imaginons avec les autres. Les échanges calculés étant d'ailleurs pas forcément mauvais. On a besoin de ces échanges au niveau professionnel et autres. La fraternité ne se revendique pas, elle se vit et s'expérimente. Et surtout, je trouve, nous avons tous, je crois, j'espère, cette expérience que nous pouvons avoir avec des personnes dont on se dit frère. Je pense que c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Elle donne vie. Mais pour cela, il faut que cette relation soit réciproque. Et c'est assez paradoxal de parler de relations réciproques, et on en parle dans nos communautés de l'Arche. On dit que finalement, ce que l'on essaie de vivre, ce sont des relations mutuelles entre nous. Comment cette égalité est-elle possible lorsque la nature, les circonstances de la vie ont créé de telles différences? La réponse est loin d'être évidente. Elle ne peut naître que de l'expérience de la rencontre. Cette expérience nous dit que de la relation naît la guérison. Et je crois le lien fraternel. Le terme de guérison n'est d'ailleurs pas celui qu'on emploie à l'Arche. On emploie le terme de transformation. Il y a des handicaps, il y a des fragilités, des maladies, bien sûr, dont on ne guérit pas, on le sait. Il y a quelque chose parfois d'irréparable dans ce qui est cassé. Mais cela n'empêche pas d'être transformé, et pour nous chrétiens, d'être sauvés. C'est intéressant d'ailleurs dans les évangiles où Jésus peut être en relation avec tel ou tel infirme, où il ne dit pas qu'il est guéri, il dit qu'il est sauvé. En tout cas, cette transformation, c'est notre espérance, cette espérance qui nous dit que de nos blessures peut surgir la vie Et il y a cette réciprocité étonnante que la fragilité de l'autre, dès lors que nous sommes dans la rencontre, appelle mes propres fragilités, me permet de mieux les nommer, les identifier, les reconnaître. Voici bien ici le lieu du paradoxe, ou plutôt celui du renversement de perspective, celui qui est le moins porteur des valeurs en pointe de la société, celui qui est le plus disqualifié, serait porteur de bonheur et vecteur de transformation vers un plus de vie. Et donc dans l'Arche, nous avons essayé de mettre des mots sur cette expérience et nous utilisons le triptyque « relation, transformation, signe ». Cette relation peut nous transformer. Et c'est une expérience que beaucoup de gens font. Et elle est signe. Elle est signe d'abord que la personne avec un handicap a beaucoup de choses à donner, transmet, peut transmettre la vie, peut me transformer, ce qui est quand même une belle vocation dans la vie. Elle-même, dès lors que l'environnement le lui permet, que le regard porté est celui de la bienveillance, je crois que vous allez avoir une conférence sur la bienveillance, celui de l'espérance, que tu vaux plus que ce que tu montres, développe, mais ça c'est un mécanisme psychologique que l'on connaît bien chez les enfants ou autres, on a tout un tas de talents cachés qui peuvent s'exprimer dès lors que nous savons porter un regard aimant et exigeant. Signe aussi que cette inégalité de fait qui peut conduire à cette réciprocité concrète vécue, signe que il y a tellement de ce type d'inégalité dans notre société que signe qu'une société plus humaine hein, d'une certaine manière est possible. La rencontre avec des personnes handicapées de cet ordre, quand Jean Vanier a créé l'Arche, il s'est engagé auprès de Raphaël et Philippe pour suivre le Christ, mais aussi il le dit par générosité. Hein, il voulait faire quelque chose, il voulait aider. On pourrait dire aujourd'hui, si je reprends ce terme de solidarité, hein, par solidarité avec les personnes avec un handicap qui, en 1964, il y a près de 50 ans, il n'y avait pas de structure très adaptée et la situation était assez catastrophique. Après, il va développer une attitude. Il dit que cette vie ensemble, cette vie partagée, lui a fait développer une autre attitude, plus simple, moins cérébrale. Quelque chose qui l'impliquait, il parle beaucoup du toucher, de ce corps à corps qui aussi a mené du cœur à cœur. Et finalement, il dit combien le fait de passer de la tête, lui qui était plutôt qui est un intellectuel, au cœur, a vraiment été le produit de cette vie partagée avec au départ Raphaël et Philippe et avec tous les autres qui ont suivi. Dans cette expérience, ils se sont transformés, simplifiés. La simplicité des relations qu'il découvre, la joie qui se dégage de cette vie partagée lui indique qu'il a trouvé là une terre féconde. La fragilité acceptée, dévoilée du pauvre, appelle ma propre fragilité et m'aide à l'accepter davantage à mon tour. En effet, le pauvre appelle mon authenticité. Tu es là pour moi car je n'ai rien d'autre à te donner. Sois alors toi-même car sinon il ne se passera pas grand-chose. C'est l'expérience que beaucoup d'assistants font à l'Arche. C'est ce que je fais et qui me donne beaucoup de bonheur, beaucoup de questions aussi sur moi-même. Le chemin est long. Nul besoin, ou en tout cas moins besoin, de me construire un personnage, de devoir montrer que je sais, que je maîtrise tout. Me faire appeler mon ami par Patrick, est une joie quotidienne. Les bonjours du matin, les petites incursions dans le bureau, les dérangements pas toujours très adaptés lorsqu'on est en réunion ou autre font partie de notre quotidien, mais nous amènent aussi à peut-être avoir un peu plus de recul sur le sérieux des choses et à mettre beaucoup d'humour dans notre vie quotidienne. Mais dans cette demande affective, il y a aussi quelqu'un qui, chez nous, est un homme qui n'arrête pas de dire « mais est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ?» Oui, je ne stresse pas. Hein. Tout le monde m'aime bien ici. Hein, tout le monde m'aime bien. Et à travers ça, finalement, je me dis en l'entendant, finalement, il exprime tout haut ce que nous n'osons pas dire tout bas. Et c'est aussi ça la richesse des personnes avec lesquelles nous pouvons vivre, hein, c'est que justement il n'y a pas de barrière. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je suis aimé? C'est quand même notre question fondamentale et la question la plus existentielle que nous pouvons avoir. Et Jésus, oui, même Jésus l'a dit. Même Jésus avait besoin qu'on lui dise tu m'aimes. Écoutons pour finir cette partie, et la dernière sera très rapide, ce que aussi le père Joseph Rzinski, fondateur d'ATD Carmont, dit. Et c'est intéressant parce qu'il intitule, c'était un topo qu'il faisait aux assistants de l'Arche en 1983, donc ça date déjà d'un certain temps. Et son topo s'appelait « L'égalité entre les hommes ». Et ça m'a intéressé par rapport à ce triptyque dont je parlais, il ne parlait pas de la fin. Hein, il appelait ça « L'égalité entre les hommes ». Je cite « Non pas cette égalité qui fait que tout le monde a la même intelligence, que tout le monde a les mêmes initiatives, les mêmes pensées, le même avoir. » Non, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Il est question de cette égalité qui fait que profondément, au plus profond de nous, l'autre est notre frère, l'autre. Nous savons ce qu'il nous attend, mais nous-mêmes l'attendons avec autant de force et encore plus de force que lui nous attend. L'égalité, c'est vouloir que l'autre devienne plus grand que nous, accepter qu'il devienne plus grand que nous. Et c'est cela l'amour, car l'amour élève l'autre, non seulement à son propre niveau, mais aussi à un niveau supérieur. L'amour a la volonté de faire que l'autre vous dépasse. Il faut que moi je m'abaisse et que lui s'élève, disait Jean. Mon amour élève l'autre à soi, mais quand il s'agit des plus démunis, cela signifiera souvent pour nous descendre dans l'affaire de la honte et du mépris. Cela veut dire qu'il faudra épouser d'une manière ou d'une autre le rejet qui pèse sur les pauvres. Il nous faudra descendre pour que ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale soient capables de monter au plus haut et qu'ils deviennent les premiers. Nous ne parlons pas de descendre au plus bas pour rester au plus bas, pour maintenir les gens là, nous mettant avec eux dans une espèce de communautarisme. Pas du tout. Descendre, c'est pour que nous nous soulevions ensemble, levain dans la pâte. Vous remarquerez que la pâte fait perdre de vue le levain. On ne voit plus le levain lorsque la pâte a gonflé, lorsqu'elle a pris toute sa forme. On oublie la force qui l'a faite, qui a fait monter la pâte. C'est aux pauvres de déterminer la forme de notre service. Fin de citation. Nous pourrions résumer les éléments concrets de cette descente, pour reprendre les termes du Père Joseph, ou dans le cadre de cette conférence, de cette rencontre avec un grand R, hein, de cette relation fraternelle. Il s'agit bien pour nous de passer de la compétition à la communion, de l'efficacité, du rejet de l'inutile à la fécondité, de l'instrumentalisation de l'autre à la gratuité, et de l'individualisme forcené à la communauté. Conclusion, la rencontre est au cœur de la révélation entre Dieu et l'homme. Elle a ceci de particulier dans notre foi chrétienne, qu'elle ne se mesure pas sur ce que j'ai apporté ou cherche à apporter à l'autre, mais sur ma disponibilité à recevoir. C'est bien Dieu qui vient toujours à notre rencontre, et non pas nous qui allons le chercher. Les personnes avec un handicap savent recevoir, leur disponibilité à recevoir est grande, tant elles sont dans la dépendance et la fragilité. Accepter sa dépendance vis-à-vis de l'autre, le « j'ai besoin de toi » est donc une condition essentielle d'une vraie rencontre. Elle est essentielle dans notre relation à Dieu, elle est essentielle dans notre relation aux autres. Elle implique d'accepter l'imprévu qui naît d'une rencontre. Elle est chemin vers la vraie fraternité. C'est pourquoi le geste du lavement des pieds, nous pratiquons beaucoup à l'Arche comme un élément très important de notre vie communautaire, a une si haute importance. Si nous n'acceptons pas de nous faire laver les pieds comme Pierre, nous refusons cette invitation à la vraie rencontre. Nous le savons, laver les pieds de son frère, c'est se mettre à son service, c'est se montrer dans sa vulnérabilité. Mais se laisser laver les pieds est encore plus important, me semble-t-il. C'est faire acte de confiance en l'autre, c'est accepter d'être touché par l'autre. À l'Arche, nous ne sommes pas tous croyants et ne confessons pas tous Jésus-Christ au sein de l'Église catholique, loin de là. Mais je crois que nous vivons tous une expérience spirituelle forte à travers cette expérience de la rencontre. Et je pense qu'il n'est nul besoin, évidemment, d'être chrétien pour découvrir que ma blessure acceptée peut surgir du nouveau et que ce nouveau est fécond. Il y a là une expérience éminemment spirituelle qui nous relie au mystère pascal. La vie ressurgit à l'endroit de la mort, les deuils que portent les personnes avec un handicap leur donnent mystérieusement la capacité de transmettre beaucoup de vie autour d'elles. Elles nous humanisent, elles nous permettent de découvrir notre être profond et nous, en retour, transmettons cette paix reçue. La fragilité n'est pas quelque chose à réparer, elle peut l'être bien sûr, il faut se battre pour ce plan médical et autres, mais car elle est souvent irréparable. Mais dans cet irréparable se cache une source d'où peut jaillir la vie, celle d'un cœur à cœur avec nos frères et avec nous-mêmes, celle d'un cœur à cœur avec Dieu qui nous aime inconditionnellement, nous appelle par notre nom et dont nous sommes tous les bien-aimés. Dans le cœur à cœur où je me fais vulnérable, où j'accepte le risque d'être blessé, Dieu se dévoile. Il nous l'a annoncé, c'est au travers des pauvres et des petits qu'il le fait de manière privilégiée. J'étais nu, j'ai eu honte et je me suis caché. Mon frère différent me dit que je suis nu en effet, comme lui, mais que je n'ai pas à en avoir honte et qu'avec mes frères, sous le regard du Christ, je n'ai pas besoin de me cacher.